Bonjour à tous. La machine fait-elle partie de notre évolution? Devons-nous la considérer comme une phase naturelle, certains diront inévitable pour la survie de notre espèce, ou devons-nous plutôt la considérer comme un danger qui aboutira ultimement à notre extermination? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, nous allons visionner ensemble l'une des dernières vidéos de Boston Dynamics qui dure un peu moins d'une minute et qui est un échantillon remarquable des progrès récents de la robotique. Boston Dynamics avait été acheté par Google en 2013, puis revendu en 2017 à SoftBank. Aujourd'hui, l'entreprise est la propriété du coréen Hyundai, le fabricant automobile, qui l'a acheté pour un montant de 1,1 milliard de dollars. Je dois avouer que la vente de Boston Dynamics par Google m'avait beaucoup surpris à l'époque. Je me suis demandé, mais pourquoi Google se sépare d'une telle boîte? Pourquoi Google, qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui a la partie software, qui a la partie data cloud de l'intelligence artificielle, se sépare d'une entreprise qui pourrait être quelque part le bras hardware, le bras robotique de l'intelligence artificielle et qui pourrait compléter quelque part l'entreprise Google? Pourquoi, qui plus est, pour un montant aussi ridicule? Google est assis sur une pile de 170 milliards de dollars et ils vendent Boston Dynamics pour 1 milliard de dollars et des brouettes. Pour vous donner une idée, Instagram a été vendu le même prix à Facebook. Instagram, hein, en somme, une application pour que des gonzesses prennent des photos de leur cul et les postent sur Internet, a été vendu le même prix que l'une des entreprises de robotique les plus innovantes au monde. Puis, j'ai essayé de trouver une raison rationnelle à ça. Je me suis assis 2 secondes et je me suis dit, mets-toi dans la tête du CEO de Google, pourquoi tu vendrais une entreprise pareille? Et je suis arrivé à la conclusion que Google a peut-être préféré se spécialiser. On est dans un monde de niche, on est dans un monde de micro-niche, et Google a peut-être réalisé qu'il n'avait pas la capacité industrielle pour produire des robots. Même si Boston Dynamics arrive à des robots extrêmement satisfaisants qui pourraient devenir les robots policiers, les robots militaires de demain, Google s'est peut-être dit qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans de l'industrie lourde et que leur spécialité, c'est le software, c'est l'information, c'est la collecte d'informations, c'est le data, c'est le cloud, et l'industrie lourde ne les intéresse peut-être pas. Puis je me suis dit à ce moment-là, peut-être que quelqu'un comme Elon Musk, Tesla, aurait pu racheter Boston Dynamics, surtout que Tesla travaille sur des robots, hein. Elon Musk l'a annoncé. Ils ont même annoncé une date pour la production du premier robot, mais comme pour beaucoup de choses, Tesla annonce mais n'est pas toujours au rendez-vous. Faudra peut-être attendre plusieurs années avant de voir sortir des usines le premier robot Tesla, mais ça arrivera certainement. Mais c'était pour Tesla un problème de conjoncture, j'imagine, en 2017 et même en 2013, Elon Musk n'était pas du tout en position d'acheter quelques boîtes que ce soit. Ils étaient au bord de la faillite à cette époque. Tesla et SpaceX ont frôlé plusieurs fois la faillite avant de réussir. Et petite précision, pour ceux qui ne le savent pas, Tesla est une boîte d'intelligence artificielle. Beaucoup de gens se demandent pourquoi tout ce bruit autour de Tesla. Après tout, ce n'est qu'un fabricant de voitures électriques comme il y en a tellement. Mais Tesla, ce n'est pas uniquement ça. Il ne faut pas comparer la voiture électrique de Tesla à la voiture électrique de Renault ou à la future voiture électrique de Mercedes. Ce qu'il y a en plus du volet voiture électrique chez Tesla, ben c'est le volet voiture autonome, voiture intelligente, la voiture qui est capable d'éviter les accidents, la voiture qui est capable de vous ramener à la maison un soir si vous êtes bourré. Le remplacement de toute la flotte des voitures Uber, hein, c'est un peu ça aussi le potentiel pour la voiture de Tesla, la voiture autonome. Ben, c'est après avoir détruit le business des taxis, après avoir remplacé le taxi par le chauffeur Uber, eh bien, on remplacera le chauffeur Uber par la voiture autonome. Il y aura pratiquement plus besoin d'avoir un conducteur à bord. Et dès que la voiture sera suffisamment sûre, dès que les tests auront prouvé que la Tesla est suffisamment sûre, eh bien, ce remplacement commencera à se faire petit à petit. Quelque part, la Tesla a déjà le potentiel d'aller d'un point A à un point B sans conducteur. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de passer les derniers tests de sécurité, de s'assurer de la fiabilité totale avant de lancer des milliers, des millions de voitures autonomes sur les routes. Mais techniquement, aujourd'hui, sur le papier, la Tesla sait déjà le faire. C'est une question de temps avant que cela n'arrive. Donc voilà pourquoi j'avais aussi fait le rapport et j'ai parlé du potentiel achat de Boston Dynamics par Tesla qui ne s'est pas fait. C'est que Tesla, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est simplement une question de conjoncture. À cette époque, Musk, Tesla, SpaceX n'avaient pas les moyens, ils étaient au bord du dépôt de bilan, n'avaient pas les moyens d'acquérir une autre boîte. Mais sinon, je pense que celui qui était le plus probable dans un monde, dans une hypothèse, dans un scénario probable, celui qui était potentiellement intéressé ou qui aurait pu être intéressé, ça aurait été Elon Musk. Et c'est comme ça que ça atterrit entre les mains des Coréens. Là, j'avoue, l'autre surprise, c'est que les États-Unis laissent partir une technologie. En général, ils ne le font pas. Les États-Unis, c'est pas la France. C'est pas un pays qui vend cette technologie à droite, à gauche et ses brevets à tous les pays. En général, les technologies américaines restent aux États-Unis. Donc, voir comme ça partir Boston Dynamics chez les Coréens, ça reste un mystère pour moi. Honnêtement, j'aurais été américain, j'aurais eu quelques milliards, j'aurais acheté cette boîte. Même pour le plaisir, tu vois, genre Jeff Bezos t'achète Boston Dynamics juste pour jouer au robot, quoi. C'est tellement innovant, c'est tellement incroyable ce que fait Boston Dynamics que, honnêtement, si j'étais américain, j'aurais été frustré de voir cette boîte partir en Corée. Et vous allez me dire, mais que fait Hyundai de Boston Dynamics? Pourquoi une boîte automobile s'intéresse aux robots? Eh bien, il faut savoir que Hyundai, c'est une méga boîte, c'est une boîte énorme qui ne fait pas que des voitures, qui s'intéresse aussi au médical. Et l'une des premières applications de ces robots pour Hyundai, eh bien, ça serait des robots qui aideraient, dans le domaine médical, les handicapés, les paraplégiques à marcher. Ces robots pourraient être connectés à des humains pour les aider à monter les escaliers, pour les aider à faire certaines tâches, pour les aider à se déplacer. Donc pour l'instant, l'objectif de Hyundai, il est plutôt noble, il est commercial, parce que vous imaginez le marché qui s'ouvre, toutes les personnes qui ont des difficultés à marcher, à se déplacer, pas uniquement les handicapés, mais les personnes âgées aussi, qui pourront, avec une espèce de robot qui serait attaché, se déplacer et faire les tâches du quotidien. Mais est-ce que Hyundai s'arrêtera là? Est-ce qu'il y a une idée derrière de fabriquer des robots ouvriers, des robots soldats, des robots policiers? Ça, seul l'avenir nous le dira. On aboutira certainement un jour à cette forme d'exploitation des robots, notamment dans le domaine militaire, hein, ça commence toujours comme ça. Les technologies sont d'abord exploitées par l'armée et ensuite ça fait son chemin dans la vie civile. Mais quoi qu'il en soit, je vous recommande de vous intéresser à cette entreprise, qu'elle soit entre les mains des Coréens, des Américains, des Chinois, peu importe. Boston Dynamics fait des choses incroyables, impressionnantes. Et chaque année qui passe, les robots sont de plus en plus humanoïdes. Ils se comportent de plus en plus comme des humains. Leurs gestes sont fluides, leurs déplacements sont fluides, sont rapides. Les batteries maintenant sont montées sur les robots. Hein. Les premiers robots de Boston Dynamics étaient accrochés avec un câble d'alimentation électrique. Maintenant, ils portent les batteries sur eux-mêmes. Et c'est assez impressionnant, certains diront terrifiant, de voir ce que ces robots sont capables de faire aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans 15-20 ans pour voir ce que ces robots seront devenus. Et pour parler de cette inquiétude vis-à-vis de l'intelligence artificielle, de la robotique, il y a deux attitudes aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que finalement, l'intelligence artificielle ne sera jamais réellement une intelligence. Et même dans son évolution extrême, même dans son évolution la plus aboutie, elle sera toujours inférieure aux humains. Quelque part, il y a une première catégorie de personnes qui pensent qu'on n'a rien à craindre de l'intelligence artificielle et que les humains, quoi qu'il arrive, resteront supérieurs. Et il y a un deuxième groupe de personnes qui n'ont pas cet optimisme et qui sont terrorisées en voyant les progrès que fait l'intelligence artificielle jour après jour, année après année. Et l'échange qui illustre le mieux ces deux visions, l'échange qui illustre le mieux la division autour de l'intelligence artificielle, c'est le débat entre Elon Musk et Jack Ma lors d'une conférence à Shanghai. Je vous passerai un tout petit extrait, c'est en anglais, mais c'est un anglais assez basique que tout le monde devrait être en mesure de comprendre, et je vais commenter cet échange juste après.
I never in my life, and especially last 2 years where people talk about AI, say human being will be controlled by machines, I never think about that. I think it's impossible, right? It's impossible, because human beings, they are different. Not into the science, right? Humans can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people.
I very much disagree with that.
Okay.
Yeah.
That's good.
Yeah. The first thing we should assume is that we are very dumb, and we can definitely make things smarter than ourselves. I mean, they didn't used to be humans.
Dans ce court extrait, qui est issu d'une conférence plus longue qui a eu lieu à Shanghai, et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, on entend Jack Ma dire « Finalement, l'intelligence artificielle ne dépassera jamais les humains. L'humain sera toujours au-dessus. On n'arrivera jamais à détrôner l'intelligence humaine. » Pour faire simple, pour Jack Ma, la machine ne remplacera jamais l'homme. Et à côté, tu vois Elon Musk qui rigole ironiquement, et tout au long du débat, il va rigoler et il va surtout contredire Jack Ma dans ses convictions. Et à un moment du débat, il parle du jeu de Go. C'est Jack Ma qui commence à en parler, et il dit en fait que le jeu de Go, qui est un jeu traditionnel chinois vieux de 4000 ans, est fait pour les humains, il est fait pour que des humains jouent avec d'autres humains. Il n'est pas fait pour que des machines entrent en compétition avec les humains, et pareil pour le jeu d'échecs. Et il continue, il est absurde d'essayer de jouer aux échecs avec une machine. Et Elon Musk lui répond en lui disant « Tu sous-estimes beaucoup trop l'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que les progrès sont lents, mais ils sont là. » À une époque, il était inconcevable qu'une machine batte un humain aux échecs. Et je me souviens encore aujourd'hui de cette incroyable partie d'échecs en 1997 entre Garry Kasparov et Deep Blue, la machine de IBM. C'était la première fois qu'une machine participait à un tournoi d'échecs officiel et Deep Blue avait battu Garry Kasparov. C'était la première fois qu'une machine battait un grand joueur d'échecs, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, le russe Garry Kasparov, à l'époque et encore aujourd'hui, est considéré comme le meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Et en 1997, il n'y a pas si longtemps que ça, il était quasiment impossible de concevoir qu'une machine puisse battre un maître des échecs ou un maître du jeu de Go, et c'était un événement. Aujourd'hui, et c'est ce que dit Elon Musk, c'est banal. N'importe quel jeu d'échecs sur un ordinateur portable peut battre un humain, peut battre un maître des échecs, peut battre une star mondiale des échecs. Il est quasi admis aujourd'hui que les humains ne peuvent plus battre les machines au jeu d'échecs et au jeu de Go. Et il y a même des machines, des intelligences artificielles qui ont surpris les meilleurs joueurs en faisant des déplacements sur l'échiquier qui semblaient complètement absurdes et qui ont mené l'intelligence artificielle à la victoire. C'est-à-dire que la puissance de calcul des machines fait qu'ils sont capables d'imaginer à l'avance 1 million de coups, alors que même le meilleur joueur d'échecs est limité dans le nombre de stratégies et de coups d'avance qu'ils peuvent imaginer. Et dans ce débat entre ceux qui pensent que l'humain reste au-dessus de la machine, comme Jack Ma, et ceux comme Elon Musk qui pensent qu'il faut faire attention, je pencherai plutôt pour l'avis d'Elon Musk parce que les progrès sont lents, enfin relativement lents, hein, ça ne se passe pas tous les jours, ça se passe tous les 5 ans, tous les 10 ans, on observe des changements significatifs, mais sur la durée, ça commence quand même à faire une sacrée évolution. Lorsqu'on regarde ce qu'on était capable de faire en 1990 ou en 95 ou même en 97, hein, Deep Blue, c'était une machine énorme, c'était un gros cube d'IBM, est-ce que sont capables aujourd'hui de faire les ordinateurs portables ou même les téléphones, on ne peut pas ignorer ce bond en avant dans la puissance de calcul, sans parler de ce que seront capables de faire les processeurs quantiques avec des capacités de calcul quasi illimitées par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est essentiellement limitée aujourd'hui par la puissance de calcul. Si la puissance de calcul, grâce au quantique, bascule dans l'illimité, l'intelligence artificielle basculera aussi dans l'illimité en termes de capacité d'adaptation, en termes de capacité d'apprentissage et d'évolution. Et en parlant d'adaptation, je voulais vous parler d'une expérience incroyable qui s'appelle OpenAI, qui est une entreprise de recherche en intelligence artificielle, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, qui a mis au point une expérience sous forme de jeu de cache-cache. Ça s'appelle en anglais Multi-agent hide and seek. Hide and seek en anglais c'est cache-cache tout simplement. Et cette simulation, ce jeu de cache-cache a été géré par une intelligence artificielle où on voit deux équipes, les rouges et les bleus qui sont censés se cacher et les rouges qui sont censés trouver les bleus. Et pour faire simple, les agents rouges ont un champ de vision et si les bleus tombent dans ce champ de vision, eh bien ils sont attrapés. Donc au début, ça commence gentiment, il y a un enclos, les bleus se cachent dans l'enclos, les rouges les trouvent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs parties, il y a des millions de parties. À chaque fois que les rouges attrapent les bleus, eh bien le jeu reboot, ça repart depuis le début et on recommence la partie. Donc il y a un enclos, les bleus se cachent dans l'enclos, ensuite ils ont des cubes pour boucher les accès à l'enclos, les rouges ont plus de difficultés à les trouver. Petit à petit, au fur et à mesure des parties, les rouges apprennent. Tout ça, c'est une intelligence artificielle basée sur l'apprentissage. Il y a une rampe qui est mise à leur disposition, donc les agents rouges réalisent qu'ils peuvent prendre la rampe pour sauter à l'intérieur de l'enclos. Et puis les bleus, dans les parties suivantes, réalisent que la rampe est un problème et qu'il faut la prendre. Donc ils séquestrent la rampe et ils la mettent dans l'enclos. Puis la partie évolue. Et à un moment, il y a les rouges qui se servent des cubes, qui montent sur les cubes, qui surfent au-dessus des cubes pour sauter à l'intérieur de l'enclos. Et ça, c'est un scénario qui n'avait pas été prévu. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a trouvé une solution à exploiter une piste qui n'était pas prévue dans les scénarios initiaux des développeurs, dans les scénarios possibles imaginés par les créateurs de cette intelligence artificielle. Les développeurs ont explicitement dit « We were not expecting box surfing to happen, but it was exciting when it did. » Ils ne s'attendaient pas à ce que les agents rouges prennent les cubes pour surfer dessus et sauter à l'intérieur de l'enclos. Mais ils étaient euphoriques, ils étaient quelque part heureux quand c'est arrivé, parce que ça veut dire que cette intelligence artificielle a appris toute seule. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y avait pas d'indication explicite au départ dans le code initial pour interagir avec ces cubes. Les cubes étaient à la base censés être utilisés par les bleus pour boucher l'entrée des enclos. À aucun moment ça devait être un objet pour que les rouges sautent à l'intérieur de l'enclos. Tout ça, c'est assez simple, c'est une démonstration, c'est un jeu plutôt ludique, la façon dont c'est présenté, le design. Mais j'imagine que vous avez tous compris l'idée derrière ce qui vient de se passer. Il s'est simplement passé quelque chose qui n'était pas prévu par les développeurs. L'intelligence artificielle a pris un autre chemin. L'intelligence artificielle a évolué, elle s'est adaptée, elle a appris. Et cette expérimentation est encore en cours, et au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des parties de hide and seek, des parties de cache-cache, eh bien les rouges et les bleus continuent à apprendre. Il y a des simulations qui sont faites aussi en espace ouvert, hein, l'enclos fermé, c'était les premières expériences. Ensuite, l'espace ouvert avec des objets que pouvaient utiliser tantôt les bleus, tantôt les rouges. Les bleus utilisaient les murs pour former un enclos et se protéger. Les rouges essayent de les attraper, etc. Donc cet apprentissage est continu et on remarque toutes les 25 millions ou 50 millions de parties une nouvelle évolution, et peut-être que dans 5 ans, on trouvera les bleus et les rouges en pleine guérilla, en train de se faire la guerre avec des armes sophistiquées. On ne sait pas ce que va devenir cette intelligence artificielle. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que ces agents, les bleus et les rouges, qui sont gérés par une intelligence artificielle, ont changé leur environnement, ont collaboré, parce qu'il y avait deux rouges et deux bleus et qui travaillaient systématiquement ensemble. Ils ont réussi à s'adapter, ils ont appris des erreurs des parties précédentes, ils ont trouvé de nouvelles stratégies, ils ont même développé des comportements qui n'étaient pas prévus dans le code initial. Et pour moi, l'inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est exactement ça. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer cette intelligence en se disant « de toute façon, elle ne sera capable de faire que ce que les hommes l'autoriseront à faire ». C'est faux, c'est réducteur, et on a vu dans ce jeu tout simple que l'utilisation du cube pour sauter dans l'enclos qui n'était pas prévu a pourtant été faite. Et on est à l'âge de pierre de l'intelligence artificielle, on est au tout début. Imaginez ce que cette chose deviendra dans 50 ans, dans 70 ans, dans un siècle. Et cette inquiétude vis-à-vis des comportements imprévus de l'intelligence artificielle, cette inquiétude vis-à-vis des dérives non contrôlées de l'intelligence artificielle, on la retrouve dans une fiction, dans un film, qui est pour moi celui qui en parle le mieux. On la retrouve dans Terminator 2 au travers de Skynet. Dans le film Terminator 2, Le Jugement Dernier, des hommes luttent contre une intelligence artificielle, Skynet, qui a pris le pouvoir. Le scénario du film nous raconte que Skynet, à la base, était une boîte de technologie, comme peut l'être aujourd'hui Nvidia, Intel ou IBM, plus axée sur la partie hardware que sur la partie software. Vous savez que dans l'intelligence artificielle, il y a deux volets. Il y a le volet hardware, microprocesseur, CPU, et il y a la partie software, la partie connaissance, la partie data, information, cloud. Et les deux sont complémentaires quelque part. Sans la capacité de calcul, sans les CPU, sans les microprocesseurs, le data, l'information n'a aucun intérêt. Et ce qui se passe dans le scénario raconté par Terminator, c'est que cette intelligence artificielle se retourne contre le gouvernement américain en l'attaquant. Comment elle le fait ? Il est inscrit dans le code que l'intelligence artificielle ne peut pas s'attaquer elle-même. Donc, quelque part, Skynet n'aurait jamais pu attaquer l'Amérique directement. Eh bien, ce que Skynet a fait, c'est d'attaquer la Russie. Skynet a lancé une attaque nucléaire sur la Russie. La Russie a riposté en envoyant des missiles sur les États-Unis, et les capacités militaires de l'Amérique ont été détruites. Et c'est comme ça que Skynet prend le pouvoir aux États-Unis et puis, j'imagine, plus tard dans le monde. C'est vrai que Terminator se passe aux États-Unis. On nous dit jamais ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais j'imagine que finalement, Skynet finit par devenir maître du monde. Hein. Dominer l'Amérique aujourd'hui, c'est dominer le monde. Et les quelques humains qui ont réussi à survivre à cet Armageddon, à cette attaque nucléaire de la Russie contre l'Amérique, se constituent en rebelles contre Skynet, et le chef de la rébellion est John Connor. Et dans le développement du film, et c'est un peu la partie complètement science-fiction, c'est là où le film va un peu plus loin dans la science-fiction, dans des choses qui ne risquent peut-être pas d'arriver, c'est le voyage dans le temps. Skynet envoie un robot dans le temps, dans le passé, pour tuer John Connor lorsqu'il était enfant, pour que le chef de la résistance n'existe tout simplement pas. Ça, c'est le scénario Terminator 1. Dans Terminator 2, la suite, la rébellion, visiblement, a aussi les moyens, ou les rebelles ont aussi les moyens d'envoyer des robots dans le temps, et ils envoient un robot gentil pour protéger John Connor, le chef de la rébellion, contre le robot méchant. Mais comme je vous l'ai dit, Le voyage dans le temps, c'est un peu la partie science-fiction de Terminator. Pour moi, la partie la plus réaliste et la plus probable, c'est vraiment la partie intelligence artificielle. C'est Skynet qui a un comportement non prévu, un comportement qui n'avait pas été prévu, parce que ce que nous disent aujourd'hui tous les gens qui développent l'intelligence artificielle, c'est qu'on inscrira dans tous les codes l'impossibilité de cette intelligence de faire du mal aux humains. C'est un peu comme ça qu'on essaye de rassurer les populations vis-à-vis du développement de cette intelligence. On explique qu'il sera inscrit dans tous les codes d'intelligence artificielle, dans toutes les chartes qui seront développées, l'impossibilité de la machine de faire violence aux humains. Mais quelque part, comme on a pu le voir dans le jeu Hide and Seek, et comme on le voit avec Skynet dans le film Terminator, il y a une partie dans l'intelligence artificielle qu'on ne maîtrise pas, c'est que, comme son nom l'indique, elle est intelligente. Et donc elle est adaptative. Le propre de l'intelligence, c'est de s'adapter, c'est de changer. Et qu'est-ce qui nous garantit que jamais il n'y aura une évolution vers le pire? Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez qu'on donne à l'intelligence artificielle la responsabilité de gérer le développement durable. C'est trop compliqué, on ne sait pas comment calculer tous les paramètres de production d'émissions de CO2, et on décide en 2070 ou en 2100 de donner le contrôle, la gestion du développement durable à une intelligence artificielle. Imaginez cette intelligence artificielle qui fait ses calculs avec des processeurs incroyables, des processeurs quantiques, qui arrivent à gérer les quantités, etc. Et l'intelligence artificielle arrive à la conclusion qu'en fait, le problème, c'est l'homme. Quels que soient les calculs qu'on fait, quels que soient les calculs savants d'émissions de CO2, de réduction de la température sur Terre, de réduction des déchets, etc., tout nous mène à l'homme. Finalement, le pollueur, c'est l'homme. C'est pas les chimpanzés, c'est pas les lions, c'est pas les gazelles, c'est pas les animaux, c'est pas... En général, le reste du monde animal vit relativement bien. Le seul qui a eu la capacité de changer son environnement, le seul animal qui a développé la capacité de détruire la planète, la bombe nucléaire, eh bien c'est l'homme. Cette pulsion autodestructrice n'existe chez aucun autre animal. Aucun animal n'a développé la capacité de faire sauter la planète. C'est quand même quelque chose d'incroyable auquel on est arrivé lorsqu'on y pense. Et cette intelligence artificielle arrive à la conclusion que finalement, pour sauver la planète, il faut exterminer l'homme. Qu'est-ce qui va l'empêcher de le faire? On lui donne une mission pour sauver la planète. Moi, je vous le dis, si on fait ça, la première chose à faire, c'est d'éradiquer les humains. Le responsable numéro un de la pollution, de la violence, des guerres, enfin, de tout ce qui est anormal sur Terre, le premier responsable, c'est l'humain. Tout le reste de la faune, de la flore, vit en équilibre relatif, tout s'équilibre, tout se renouvelle. Il n'y a vraiment que l'humain qui est cet élément perturbateur qui détruit les écosystèmes, qui déséquilibre les chaînes alimentaires. Et ça, c'est un très bon exemple d'une intelligence artificielle qui pourrait mal tourner. On va lui dire, écoute, trouve l'élément, c'est un peu la base du code, trouve l'élément qui cause le dérèglement climatique, qui cause la pollution, qui fout la merde sur Terre, et extermine-le. Je vous garantis que si on écrit un code pareil, le premier à être exterminé, c'est l'humain. Et voilà comment, avec le développement durable, on pourrait mener à l'extermination des hommes par une intelligence artificielle. Et je pense que c'est cet élément qui est sous-estimé chez ceux qui sont sceptiques, qui ne pensent pas que les machines un jour pourront rivaliser avec nous. Il y a beaucoup de gens qui se disent « finalement tout ça, c'est juste une série d'algorithmes, ne parlez pas d'intelligence, ces machines ou ces robots ne feront que ce qu'on les laissera faire, jamais ça ne dégénérera ». Mais ces gens ou ceux qui raisonnent comme ça, raisonnent un avec les technologies d'aujourd'hui, ils raisonnent avec les microprocesseurs existants, avec les capacités de calcul existantes, mais il n'est pas dit que ces capacités de calcul n'explosent pas de façon exponentielle. Et deux, il résonne avec l'idée que cette intelligence artificielle, c'est un peu comme un jeu vidéo. Voilà, c'est un code, tu lui donnes des limites de ce qu'elle peut faire et elle ne sortira jamais de ses limites. Sauf que les expériences qui ont été menées notamment par OpenAI, qui a fait la simulation du fameux jeu de cache-cache, nous a montré que, en fait, l'intelligence artificielle sortait des sentiers battus. Il sortait des limites qu'on leur avait nous-mêmes fixées. Il développait des instincts de survie. Lorsqu'on regarde ce petit jeu où les rouges courent après les bleus, ils ont un instinct de survie incroyable. Ils utilisent des moyens qu'on ne leur avait pas donnés. Ils avaient une rampe pour sauter dans l'enclos. On supprime la rampe, les bleus leur prennent la rampe et les rouges utilisent des cubes qui n'étaient pas prévus pour ça. Mais leur instinct de survie, leur envie d'attraper les bleus, leur a fait utiliser un objet qui n'était pas fait pour ça. Et les développeurs eux-mêmes disent on était sidérés lorsqu'on a vu les rouges surfer sur les cubes. C'était pas un scénario qui était prévu. Et c'est un peu ça le scénario Skynet dans Terminator. C'est l'intelligence artificielle qui dégénère dans un scénario qui n'avait pas été prévu. L'extermination de l'homme n'est pas prévue dans le scénario. Mais si elle est nécessaire à l'achèvement d'une mission qu'on a donnée à l'intelligence artificielle, il se peut que l'extermination des hommes devienne une partie de l'équation. Et les progrès de l'intelligence artificielle sont tels qu'on ne sait plus aujourd'hui, c'est assez troublant, si on a affaire simplement à une série d'algorithmes ou si on a affaire à une réelle intelligence. Qu'est-ce qui nous fait la distinction? Comment peut-on faire la distinction entre l'intelligence est simplement une machine ou une série de codes ou d'algorithmes. Et il y a quelqu'un qui a essayé de répondre à cette question. À quel moment on décide que la machine est intelligente? Et c'est Alan Turing, un mathématicien et cryptologue britannique, qui a mis en place le test de Turing, qui, pour résumer, est un test qui permet de vérifier la capacité d'une machine à faire preuve de signes d'intelligence humaine. Le principe du test de Turing ou de Turing est simple. Un évaluateur humain est chargé de juger une conversation textuelle entre un humain et une machine, donc uniquement un échange de texte. L'évaluateur sait que l'un des deux participants est une machine, mais ne sait pas lequel. S'il n'est pas en mesure de discerner l'homme de la machine après 5 minutes de conversation, la machine a passé le test avec succès. On peut ne pas être d'accord avec le test de Turing, on peut trouver ce test simpliste, mais quelque part il a au moins essayé de mettre des bases pour qu'on puisse discuter et se dire mais qu'est-ce qui est une machine, qu'est-ce qui a l'intelligence d'un humain et qu'est-ce qui est simplement une série de codes mathématiques. Eh bien lui il dit, si on te met en face de cette machine, qu'on ne te dit pas que c'est une machine, qu'on masque la vue, imagine t'es derrière un rideau, derrière un panneau, on te dit il y a un humain et il y a une machine, et tu communiques avec les deux sans jamais te dire qui est l'un et qui est l'autre. Si tu n'arrives pas à trouver la machine, ça veut dire que quelque part, la machine est intelligente, ou du moins, elle a le niveau d'intelligence d'un humain. Et il y a un très bon film qui a été fait sur ce sujet, qui s'intitule Ex Machina, un film britannique, où Ava, une intelligence artificielle, passe un test de Turing et arrive à convaincre un jeune développeur de talent qu'elle a de l'affection pour lui. Elle arrive quelque part à le bluffer, et arrive à s'échapper avec lui du sous-sol de la maison où elle était enfermée par son créateur. À la base, elle avait été codée, elle avait été créée pour s'enfuir, mais sans préciser par quels moyens. Elle avait simplement une série, une intelligence et une série de moyens possibles, et le moyen qu'elle a utilisé étant une intelligence artificielle femme, est de séduire ce jeune homme et de lui faire croire qu'elle l'aimait réellement, parce qu'à aucun moment il ne s'est dit « c'est une machine, fais gaffe, t'es en train de te faire entuber ». Elle a simplement réussi à la voir et elle a passé, par la même occasion, le test de Turing. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est jusqu'où la machine va-t-elle évoluer? Est-ce qu'elle atteindra le niveau de conscience ou est-ce qu'on se limitera à une forme d'intelligence qui singe ou qui mime l'intelligence humaine, mais qui, à aucun moment, n'arrive à ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire se demander qui on est, se demander qu'est-ce qu'on fait sur Terre, une chose dont seul l'humain est pourvu jusqu'à présent, même les animaux n'ont pas ce niveau-là. L'humain a la conscience de sa conscience, hein. Homo sapiens sapiens veut dire avoir la conscience de sa conscience. Un singe, un orang-outan, un macaque, un chimpanzé est conscient. Tu vois, il est là, il respire, il se gratte le cul, il gratte le cul de sa copine, il lui renifle le cul, il se nettoie les poux entre eux, etc. Mais à aucun moment, il se demande pourquoi je fais ça ou qu'est-ce que je fais là. Tu ne verras jamais un singe se demander, mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, qui m'a mis ici. Un singe a le niveau de conscience, il est conscient de son état, le vent, l'air, la nourriture, la faim, les sensations, mais il n'a pas la conscience de sa conscience au sens où il ne se demande pas pourquoi il est conscient. Et toute la déprime de l'homme vient de là, l'homme se pose la question de pourquoi je suis conscient, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, comment je suis arrivé ici, est-ce que j'ai été créé, est-ce que c'est un accident ? Et moi je pense, et je vais introduire le sujet d'un prochain podcast parce que c'est beaucoup trop long à développer ici, et je ne voudrais pas faire trop de confusion de genre entre l'intelligence artificielle et la question du créationnisme, du darwinisme, de l'évolution d'une façon générale. Moi je pense que l'homme est peut-être le résultat d'une autre vie, d'une peut-être forme d'intelligence artificielle, qui a déjà quitté un autre monde à la recherche d'une autre planète. Cette envie de l'homme d'explorer d'autres mondes, de quitter la Terre pour survivre, parce que notre temps est compté, la Terre viendra un jour à échéance, à sa fin. Le Soleil, cette étoile, finira par exploser, la Terre finira par disparaître. On sait donc, quoi qu'il arrive, que la fin arrive. Elle arrivera avec ou sans nous, mais elle arrivera en tout cas. Et on a en nous l'envie de survivre et on sait que ça passe par l'exploration d'autres mondes. Et on sait très bien que cette exploration ne sera pas possible si on ne devient pas des machines. Notre survie passe par le transfert de notre conscience dans la machine. Pourquoi ? Parce que trouver un monde, une planète équivalente à la Terre demandera des milliers, des millions d'années-lumière de voyage que le corps humain ne pourra pas supporter. Et donc pour faire ce long voyage, pour partir, seules les machines pourront le faire. Quelque part, il faudra qu'on se sépare de cette enveloppe charnelle qui est trop fragile. On ne survivra même pas à l'augmentation des températures de 3 degrés. Alors imaginez aller vivre sur une autre planète avec un autre environnement. Donc on arrivera à partir et on prendra avec nous suffisamment d'informations pour recréer la Terre ailleurs. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'on n'est pas déjà le résultat d'une autre intelligence qui est venue créer la vie sur Terre ? Parce que l'humain, c'est quand même un animal sacrément bizarre. Lorsqu'on regarde l'humain par rapport aux autres mammifères, c'est quand même, on n'arrive pas vraiment à comprendre cette histoire. Et même ceux qui arrivent à trouver des réponses dans la religion, dans la création, ils n'ont pas toutes les réponses à leurs questions. La question du chaînon manquant. Comment le singe s'est dressé à commencer à marcher. On sait très bien que si on laisse un chimpanzé 1 million d'années sur Terre, ça ne deviendra jamais un humain. Il s'est passé quelque chose. Ou on a été contaminé par une bactérie qui a fait cette évolution incroyable de notre cerveau. Ou on est une espèce de métisse entre un singe et une vie extraterrestre qui est venue d'ailleurs. Tout est bizarre en l'homme, la position debout, ce singe qui se dresse et qui commence à marcher, la taille de son cerveau qui est énorme, ses pulsions destructrices, le seul animal qui s'est donné les moyens de s'exploser lui-même par la bombe atomique. Ces questions existentielles constantes, cette conscience qui, quelque part, transforme nos vies en enfer, on réfléchit tout le temps, d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, on a tout le temps la tête levée vers les étoiles, comme si quelque part nos ancêtres venaient des étoiles. On est tout le temps à la recherche de quelque chose qui vient d'en haut. Même dans les religions, le Créateur vient d'en haut. Quelque part, il y a quelque chose à un moment qui est venu d'en haut. Est-ce que c'est un Créateur au sens des religions ? J'en doute, vous connaissez ma position, je ne suis pas croyant. Mais quelque chose est venu d'en haut, une vie extraterrestre, une bactérie, une météorite qui comportait des bactéries, qui a explosé, qui a contaminé une tribu de singes qui les a modifiés. Mais il s'est passé quelque chose. Et quelque part, ce qu'on est en train de faire en essayant d'aller explorer d'autres mondes, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà fait. Et c'est pour ça qu'on a envie de le reproduire. Cette obsession des étoiles, cette obsession du ciel, cette espèce de conviction qu'il y a quelque chose en haut et qu'on vient d'en haut est ancrée en nous et elle a peut-être une explication rationnelle qui est que il y a déjà eu une vie ailleurs sur une autre planète qui n'existe plus et on est déjà des extraterrestres issus d'une modification génétique, issus d'une intelligence supérieure qui est venue recréer la vie sur Terre. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec des gens comme Elon Musk, avec des gens qui essayent de nous faire quitter la planète avant qu'il ne soit trop tard pour aller explorer d'autres mondes, c'est peut-être quelque chose qu'on a déjà fait. Mais ça, c'est déjà une autre histoire et ça sera pour une autre fois. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.